Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Ravéli Lemel, bonsoir et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Ravéli Lemel, alors on avance dans notre étude et on arrive donc à une nouvelle paracha qui s'appelle Bo. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a une question que se posent les Juifs du monde depuis des générations et des générations. Comment est-il possible que dans une terre d'esclavage, finalement ne sorte qu'une infime minorité de Juifs? C'est connu, c'est qu'il y a seulement que les 4/5 des Juifs qui vivaient en Égypte, malgré tout ce qu'on a décrit, sont restés. Alors, quelle est la réponse que vous avez étudiée, Ravéli Lemel, à cette question quand même qui nous laisse très incrédule?
Exact. Alors c'est vrai qu'on va dire au début de la paracha de Beshalach, on va nous faire allusion à ça, d'accord, mais la paracha de Bo, c'est le moment dans lequel les dernières plaies ont lieu, c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et on va nous dire, ben non, voilà, 4/5 vont rester. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que 4/5, au fond, restent en Égypte et puis disparaissent, ça y est, c'est terminé. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé avec le Pharaon. Et ça va peut-être nous donner une petite idée par rapport à des choses qui peuvent concerner aussi notre propre réalité. Rappelons-nous que la stratégie qu'avait mis en place le pharaon pour asservir les enfants d'Israël, c'était donc cet avodah kasha, ce travail extrêmement difficile, ce travail extrêmement dur. Mais au fond, ça dure longtemps et donc le peuple d'Israël va devenir habitué à cela et va s'inscrire quand même beaucoup dans la civilisation égyptienne. Si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait lu donc la semaine dernière, donc ce Shabbat qui vient de passer, on a lu que lorsque Moshe justement était venu chez les enfants d'Israël pour leur parler de la délivrance, à ce moment-là, ils ne l'ont pas écouté du tout. Et de manière très curieuse, parce que le texte nous dit « Velosham uel Moshe mikotzer ruach umeavodakasha » Ils n'ont pas écouté Moshe mikotzer ruach umeavodakasha, traduction littérale, de leur respiration haletante et de par le travail caché, c'est dur. Et évidemment, qu'est-ce qui les empêche d'entendre? A priori, justement, un esclave, quelqu'un qui est là dans sa difficulté, on lui ouvre la porte vers un avenir meilleur, il devrait au moins entendre. Or là, il n'entend pas. Pour mieux comprendre ça, on va peut-être revenir encore à une paracha d'avant. Au moment où, justement, il y a une ouverture pour la sortie, quand Moshe va chez le Pharaon et puis leur parle de cette nécessité que le peuple d'Israël s'en aille. Et là, le Pharaon, pas du tout content, il dit « Tirbad avodazot » que le travail devienne plus pesant sur eux, « Valishaou bedivrei shaker » et qu'ils ne se retrouvent pas à se détourner vers des paroles mensongères. En tout état de cause, le Pharaon, à un moment, a réalisé qu'il y avait peut-être des velléités de départ. Et alors, il est intéressant ici d'analyser les termes et on va les écouter, mais on va essayer de les traduire aussi à un second degré, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous concerne. Tirbad, ici, au tout début, quand justement il y a des velléités de sortir, le pharaon dit non, tirbad. Alors tirbad, ça veut dire quoi? Tirbad vient de la racine kaved. Kaved, ça veut dire lourd. C'est pas caché, c'est pas difficile. Kaved, pesant, au fond, c'est quelque chose auquel on donne de l'importance. Il faut absolument que le travail soit quelque chose qui prenne toute la place. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'est plus cette possibilité d'imaginer autre chose. Comme si au fond, si on réfléchissait à un second niveau, lorsque vous focaliser quelqu'un sur une chose et seulement sur cette chose, alors qu'il ne peut même plus s'imaginer que la vie, ça puisse être autre chose que ça. Voilà, c'est le travail et encore le travail et toujours le travail. Et donc, se projeter dans un autre monde, dans une autre possibilité, sort de l'esprit, parce que voilà, la vie, c'est ça. Et après, eh bien, la suite, c'est que, justement, ils ont cette respiration haletante, c'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un court, et il arrive, et il est là comme ça en train d'halter, reprendre sa respiration, si vous lui demandez à ce moment-là de regarder autour de lui, de vous parler d'autre chose, d'observer le monde, il ne peut pas. Il a besoin de reprendre sa respiration, il est complètement focal sur cette nécessité de reprendre sa respiration, comme si au fond, eh bien, à un moment, quand le travail devient quelque chose de cavette, de lourd, de pesant, c'est-à-dire de quelque chose qui prend toute la place, eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus entendre une autre parole, on ne peut même pas imaginer qu'il puisse y avoir autre chose que ça, parce que justement le travail est dur, et j'ai envie de traduire de la manière suivante, dur dans le sens, ça y est, il y a quelque chose de très rigide, et peut-être qu'on n'envisage pas que la vie, ça puisse être autre chose que cela. Et en tout état de cause, ici, on a peut-être une indication, toute une partie du peuple qui est complètement focalisée sur ce que l'Égypte leur propose, et ne sont plus prêts à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose dans la vie, si ce n'est ce que la civilisation dans laquelle ils sont leur a proposé. On voit d'ailleurs que plusieurs midrashim qui nous disent que eh bien, les malachim disent, mais enfin, le peuple d'Israël, lui aussi, a été idolâtre. Et donc, quelque part, au nom de quoi ils vont sortir. Alors Dieu dit, il y a un engagement, donc ils vont sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire aussi cette dimension d'idolâtrie comme étant ce qui était un moyen devient but, ils sont complètement enfermés à l'intérieur d'un système et c'est là et exclusivement là où ils vont être. Et peut-être que justement ces 4/5, c'est tous ceux qui nous apprennent que, eh bien, à un moment, lorsque l'on n'envisage plus autre chose que la réalité que la société nous propose, lorsque le monde des possibles se ferme devant nous, alors qu'il est encore là, eh bien, on est dans la continuité d'un système et on ne peut même plus imaginer qu'il puisse y avoir autre chose. Et à partir de là, eh bien, ils vont rester. Surtout qu'il y a cette force d'habitude. Et vous savez, c'est un petit peu toute la difficulté d'imaginer une autre lecture, une autre manière d'appréhender, de penser les choses. Et je vais me permettre, peut-être de manière un petit peu osée, de faire un parallèle aujourd'hui avec ce qui se joue. Malheureusement, avec les événements en Israël, dans lesquels, eh bien, il n'est pas simple d'imaginer que, eh bien, il y a derrière les événements une parole divine à entendre. Alors, le pourquoi et le comment, personne ne peut le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train de nous dire, et pour certaines personnes, ce n'est pas possible, c'est inimaginable, mais non, ce n'est pas une histoire de Dieu, c'est de la politique, c'est autre chose, et malgré tout, c'est tellement compliqué à comprendre. Et peut-être rester en Égypte, c'est ça. Rester en Égypte, c'est ne plus être capable d'éventualiser un autre modèle que celui auquel on nous a habitués. C'est ne plus être capable d'imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de radicalement autre, alors qu'en vérité, c'est ça qui nous ouvre vers la liberté. Quand on parle, vous savez, beaucoup du Mashiach, eh bien, c'est vrai qu'il faut être capable d'imaginer un monde qui fonctionne de manière totalement différente. Imaginez-vous, voilà, ça fait 210 ans qu'ils sont dans cet esclavage. Vous leur dites, ben non, demain ça peut être complètement différent, mais c'est pas possible, c'est pas possible, la vie c'est pas ça. Et un petit peu notre problématique à nous aussi, c'est-à-dire, bon, ben la vie voilà, c'est le monde économique, c'est les États-Unis, c'est l'Ukraine, c'est Poutine, c'est. Voilà. Alors on peut peut-être faire des arrangements, peut-être un petit peu calmer les choses, mais voilà, c'est l'économie, c'est la consommation, c'est tout ça, quoi, c'est. Ça ne peut pas fonctionner autrement que de cette manière. Et à partir de là, eh bien, ce n'est pas simple. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, il faut être d'abord prêt à croire l'inimaginable. Il faut être prêt à croire à ce qu'il y a quelque chose qui peut être radicalement autre, qu'il peut y avoir un changement total de paradigme pour que, justement, cette histoire se mette en place. c'est peut-être cette leçon que nous devons nous essayer de prendre par rapport à cette Yetziat Mitzrayim. Pardonnez-moi, c'est-à-dire que ceux qui sortent d'Égypte, eh bien, ce sont ceux qui ont imaginé qu'il pouvait y avoir autre chose, même si c'était inimaginable, même si c'est quelque chose qui sortait de nos mondes et des possibles, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Vous savez, c'est un esclave à qui on dit « bon, mais c'est quoi le moment dans lequel… mais tout a changé ?» Il ne sait pas, il ne comprend même pas de quoi on lui parle. Et justement, sortir d'Égypte, eh bien, ça a été cela. Alors, voilà un petit peu j'ai pas envie de dire l'enseignement, mais ce que la Torah nous propose comme réflexion, avec, au-delà de ça, le fait que, eh bien, dès le moment où l'Égypte n'est plus torsionnaire, dès le moment où on ne souffre plus de la même manière, bon, mais comme on n'a jamais imaginé autre chose que l'univers dans lequel on est, alors on y reste, de manière différente, mais on y reste. Et justement, il faut être capable d'imaginer l'inimaginable dans une dimension positive, dans une dimension d'ouverture, dans une dimension de liberté. C'est en imaginant cette liberté inimaginable que justement on peut s'inscrire à l'intérieur d'une histoire différente, celle de l'histoire justement du clan Israël qui sort d'Égypte et qui va vers le Sinaï.
Bien, Rav Lemel, c'est extraordinaire parce que pendant que vous parliez, je me disais, mais c'est un peu aussi ce qui se passe avec le 7 octobre. Et je vais parler de moi parce que, je veux dire, je suis persuadé que je suis pas, c'est mon métier hein, pourtant, mais je suis pas forcé de voir autant de choses sur le 7 octobre, sur Gaza, sur Khan Younes, et pourtant c'est mon métier. Donc d'ailleurs, ça rejoint ce que vous dites, parce que c'est mon travail. Et c'est vrai que là, vous nous avez fait une démonstration sur le très grand, quoi. Il peut y avoir une autre vie, mais même dans nos trucs à nous, dans notre vie, on peut avoir une autre vie. On peut faire autrement, même sur des petits trucs. Et ben, c'est très frappant ce que vous venez de nous dire.
Mmh. Exact, être capable d'imaginer l'inimaginable, c'est ça qui donne la possibilité à ce que l'histoire existe.
Oui, une vie sans portable, c'est peut-être le seul objet où tu fais vraiment demi-tour, quoi. Tu ne parles pas de chez toi si tu as oublié le portable. Il y a plein d'autres choses, tant pis. Oh, je verrai. Le portable, c'est impossible. Alors écoutez, Rav Lemel, on va donner une idée aux uns aux autres et on va commencer par moi. Donc bah, ce soir, tous ceux qui s'étaient dit, tiens, je vais aller regarder les trucs. Et pourquoi on ne ferait pas un Mélavé Malka? Pourquoi on n'ouvrirait pas un livre? Pourquoi on ne dirait pas, tiens, à son fils, sa fille, tiens, viens, on va manger un petit truc, c'est Mélavé Malka? Pourquoi pas? Voilà, Rav Lemel, merci. Et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shavua Tov.
Shavua Tov, Mazel Tov et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour Am Israël, pour tout Am Israël.
Bah surtout pour vous à Jérusalem, mais on prend nous, tous les bons vœux, on les prend tout le temps. Rav Mordechai, voilà, on est dans la paracha, dans le paracha de Bo, et il y a un commentaire de Nachmanides qui est très connu sur la fin de la paracha concernant les miracles. Parce que bon, on dit toujours, il y a les miracles évidents, voilà, ça c'est un miracle évident, comme par exemple, je sais pas, on pourrait dire... Je vais pas le faire à la place. Pardon ? La mer Rouge, voilà, exactement. La mer Rouge. Moi, j'allais dire la création de l'État d'Israël, parce que bon, au bout de 2000 ans, voir une chose pareille qui se crée sous les yeux, sous nos yeux, ça a l'air évident. Mais oui, voilà, exactement. Donc, mais encore que mer Rouge, il y a discussion. Mais voilà, il y a des miracles, on trouve ça patent. Et il y en a qu'on trouve que la Torah définit comme un peu plus voilé, quoi, un peu plus difficile à voir. On peut considérer que c'est la nature, etc. On connaît par cœur cette histoire, elle est d'ailleurs très belle. Et vous voulez revenir là-dessus en nous disant et en nous faisant découvrir ou partager ce que Nachmanides disait de cette chose. Et vous voulez aussi dire un mot sur l'actualité. Alors allez-y, on vous écoute.
Oui, tout à fait. Bah, il y en a eu un événement d'actualité quand même ces jours passés, puisque Benjamin Netanyahou, le premier ministre de droite, qui pendant un an a essayé de faire passer la réforme judiciaire, va donc devoir envoyer en quelque sorte son plus grand adversaire, qui est donc le juge Aaron Barak, qui est celui qui, dans les années 90, a introduit l'activisme judiciaire et a finalement renforcé les pouvoirs de la Haute Cour de justice, et bien, il va l'envoyer, lui, pour défendre l'État d'Israël et défendre finalement son gouvernement au tribunal, à la Cour pénale internationale, là-bas, donc où finalement Israël est
au bord des accusés. Je vous interromps jamais, Ramon Dechaï, mais si vous voulez, en deux phrases, comme ça j'explique, parce que vous savez exactement de quoi il s'agit. Il y a des gens qui découvrent totalement ce que vous dites. Voilà, donc Israël a été convoqué devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud pour crime de génocide supposé. Et comme dans tous les procès, on a le droit de se défendre. Et Benjamin Netanyahou a demandé à son pire adversaire, celui qui a fait toute la réforme judiciaire qu'il a essayé de détruire ensuite, c'est le juge Aaron Barak, c'est lui qui a fait la Cour suprême telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment, pour Benjamin Netanyahou et pour toute la droite israélienne, c'est le chiffon rouge. Et c'est lui que Netanyahou a demandé de défendre Israël devant la Cour internationale de justice. Donc c'est incroyable.
Et lui a accepté, ça veut dire qu'il devient ici le porte-parole du gouvernement. Il devient le porte-parole de Netanyahou. Dans la presse française, dans la presse mondiale, on attaque le gouvernement de Netanyahou. Il lui-même va devenir le porte-parole de ce gouvernement. Alors nous, ça fait un an que dans cette émission, moi je le dis, je le redis tout le temps, et je n'arrête pas de le répéter, et je le répéterai tout le temps, que la redoute, l'unité dans Israël, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'on doit abolir les différences ou les chemins de vie qui font qu'on a des options différentes, mais conserver une certaine dignité, un certain respect, un certain sens de l'unité, de la fraternité, même dans le débat. Et là, il y a une situation qui a été créée par les accusations antisémites contre l'État d'Israël, qui a été créée, qui fait que maintenant, en quelque sorte, ces deux individus, et donc derrière eux finalement toute la population israélienne, doit se donner la main pour aller défendre son droit à se défendre devant des idiots de cette cour de justice là-bas qui sont vraiment des idiots et qui sont vraiment des crapules. Et ils vont devoir le faire. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est comme si dans le ciel, on prenait par les oreilles les enfants et on les prenait de force et on les obligeait à s'entendre. Et ça fait un an que nous le disons et que nous le répétons. Moi, pour moi, c'est ici, en quelque sorte, je ne vois pas ici seulement l'intervention des nations du monde qui nous oblige à nous réunir. Je vois que Mina Shamaïm, dans le ciel, par le truchement de ces accusations, on nous oblige encore une fois à nous regarder comme des enfants d'Hachem et comme des frères et comme des sœurs. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est l'instrument de notre libération. C'est l'instrument de notre avancée dans l'histoire. Voilà, c'est une petite parenthèse. On revient sur Parashat maintenant, sur Parashat Bo. Fin de Parashat Bo, il y a effectivement un texte dans lequel la Torah va préciser donc cette obligation de mettre les téphilines. Et dans les téphilines, vous savez qu'il y a des parchemins. Et dans ces parchemins, les parchemins contiennent des textes. Et ces textes-là font référence au miracle de la sortie d'Égypte. Et donc tous les matins, quand on met les téphilines, et d'une manière générale quotidienne, homme ou femme, on a l'obligation de se souvenir des miracles de la sortie d'Égypte. Mais le Ramban, lui, va aller plus loin. Et il va dire, il va donner un enseignement qui est un enseignement fondamental, qui est la base de la Emouna, de la foi du juif. Et il va dire la chose suivante. Il dit qu'en chaque génération, on doit se souvenir et témoigner des miracles que Hachem a accompagnés pour nous. Et en apprenant à reconnaître les miracles que Hachem accomplit pour nous et l'intervention et la providence divine qui nous accompagne du point de vue collectif ou du point de vue individuel, petit à petit, on va s'éduquer à voir dans la vie courante, là ici, les miracles cachés qui sont en fait, dit le Ramban, qui constituent en fait la base de la Torah. C'est la base de la vie du juif. Et il continue, il dit, il faut savoir que le juif n'a pas de part dans la Torah de Moïse, notre maître, tant qu'il n'est pas capable de croire, de voir que chaque événement de la vie, eh bien, c'est un miracle, et qu'il n'y a pas en soi de nature qui appartiendrait, comme on le dit en français, à l'ordre naturel des choses, mais il y a ici une intervention d'Hachem qui se masque dans les lois de la nature. Alors c'est absolument extraordinaire, parce que même en hébreu, le mot « mikré », hasard en hébreu, quand on recompose l'ordre des mots, ça fait rak me Hachem. C'est que Dieu, mais il est caché même dans le mot. Ou alors même encore rokem Hachem. Hachem tisse, comme on tisse petit à petit une broderie. Il coud une espèce de broderie. C'est qu'Hachem, en quelque sorte, d'organiser les choses pour les faire avancer petit à petit dans un certain sens. Ce qui nous est dit ici, c'est que finalement, l'ensemble des moments que nous vivons ne sont rien d'autre que finalement une intervention d'Hachem. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un nom Vous savez qu'Hachem se manifeste par plusieurs noms, par plusieurs modes d'intervention dans la Torah. Dans la création du monde, par exemple, le nom qui apparaît, c'est Elohim. Elohim, ça a la même valeur numérique que Hateva, la nature. Ça veut dire que la Torah vient et nous enseigne cette nature qui a des cycles, le monde, le cosmos, les arbres, les plantes, les animaux, mais l'être humain aussi, tout ça a des cycles. En vérité, tout ça est guidé par une main, la main d'Hachem, qui s'habille au travers des lois de la nature. Mais le Rambam, Maïmonide, va aller beaucoup plus loin. Il va dire, lorsqu'il y a un décret qui s'abat sur Israël, croire que ce décret est simplement le fruit du hasard et le fruit des lois, on dirait, sociopolitiques, géopolitiques et autres, etc., c'est aggraver notre situation. Il y a ici également un langage d'Hachem. Nous, on parle à Hachem dans la prière, lui, il nous parle dans la nature, quand on respire, quand on mange, quand on fonctionne, mais également dans les événements heureux ou dramatiques. En fait, Hachem, il nous parle tout le temps. Nous, on parle 3 fois par jour à Hachem dans la Tfila, mais lui, il nous parle tout le temps. Comment ? Soit par le miracle de la mer Rouge, soit par des miracles extraordinaires comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette guerre où on voit des choses hallucinantes. Les soldats racontent parfois qu'ils ont été sauvés réellement de manière miraculeuse. Mais en même temps, dans chaque événement, qu'il soit douloureux, qu'il soit heureux, il y a l'intervention d'Hachem. C'est la base de l'aïmouna du juif. C'est ainsi que se construit l'aïmouna du juif. Et donc, ça a ici une conséquence, qui est une conséquence très, très directe dans notre vie. C'est qu'on doit s'habituer à la fois à prier pour obtenir les choses et à dire merci quand on les obtient. Et même mieux que cela, parfois, on doit savoir qu'il y a des miracles qui nous accompagnent dans notre vie, mais qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est comme cette yeshiva de Tifrar, où les terroristes sont arrivés pour perpétrer un massacre, et où en fait, l'enquêteur du Shabbat dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas rentré ?» Il a dit « Parce qu'on a vu une colonne de feu. » Alors en fait, dans cette yeshiva, ils étaient en train de danser le matin de Simchat Torah, c'était le feu de la Torah, mais eux, ils ont vu un feu. Et donc, ils ont réussi un véritable miracle. Et parfois, il arrive qu'on vive des miracles et qu'on ne soit même pas au courant des miracles qu'on a vécu. Eh bien, cet épisode, par exemple, nous rappelle qu'on remercie également pour les événements heureux ou malheureux, les événements, les miracles visibles ou le miracle voilé, entre guillemets, qui s'appelle la nature, respirer, manger, etc. On dit merci à Hachem tous les matins avant même de commencer notre journée. Modéani. On reconnaît Hachem pour prononce des paroles de reconnaissance pour le bien qu'Hachem nous procure. Mais on doit même s'habituer à penser qu'il se passe des choses qu'on ne voit pas et qui sont à notre avantage. Et ça, c'est un travail, cette émouna, cette foi est quelque chose qui se construit tout au long de la vie, tout simplement par un effort, qui est un effort, en fait, on va apprendre à changer notre regard sur la vie, sur notre vie et sur la vie de l'homme Israël. Un enseignement qui est tout à fait fondamental, c'est dans le Ramban Nachmanide, chapitre 13, à la fin de la paracha, donc dans les derniers versets, le dernier verset de la paracha, le verset 16. Shavua Tov à toutes et à tous.
Shavua Tov, Rav Mordechai, on va essayer d'y penser. Et vous m'avez fait penser, justement, à une interview que nous a donnée Claude Lelouch. Vous savez, les artistes sont toujours très centrés sur eux-mêmes, c'est normal d'ailleurs, on ne leur en veut pas. Mais il nous avait dit, lors de cette interview, il avait dit, vous savez, moi, chaque film que j'ai fait, c'est un miracle. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que d'abord déjà parce qu'on voit de plus en plus que des gens qui n'ont rien à voir avec la pratique religieuse pensent de plus en plus de cette manière-là. Donc déjà, ça m'avait fait sourire ce jour-là, mais sourire gentiment, évidemment, avec bienveillance. Mais c'est aussi intéressant de voir que, normalement, il devrait dire que c'est son talent, que c'est... et c'est vrai en plus, c'est ce qu'il a sorti de sa tête, c'est un homme, une femme, personne ne peut le faire à sa place. Mais lui, il n'a pas vu ça. Il a dit c'est un miracle parce que je pourrais ne pas avoir eu le budget, j'aurais pu ne pas trouver le bon casting, ça aurait pu mal se passer. Le film, il aurait pu. Chaque film est un miracle. Et c'est étonnant parce que c'est la dernière personne de qui on pourrait attendre une réflexion comme celle-ci. Bah,
c'est ce que vous disiez également, hein, ce Bezrat Hashem, par exemple, qu'on entend aujourd'hui de manière assez naturelle dans la bouche de très nombreux dirigeants israéliens. Il était, comme on dit chez nous, il était mouxé. C'était quelque chose d'impensable il y a quelques temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ici un recentrage du peuple juif sur sa spiritualité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une évolution majeure dans l'histoire du peuple juif que nous sommes en train de vivre, que notre génération est en train de vivre, et qui va beaucoup plus loin que ce qui a suivi la guerre de Kippour. Parce qu'après la guerre de Kippour, il y a eu de la tchouva. Mais là, ici, c'est un recentrage du peuple juif sur sa neshama collective. Et ça, c'est extraordinaire.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir, Shavua Tov.
Shavua Tov. Alors Rav Gay, vous voulez intervenir ce soir sur... vous posez une question ce soir bien particulière. On assiste dans notre paracha au dévoilement divin. Et donc là, on imaginerait, on voudrait, je sais pas, un grand spectacle, quelque chose faudrait à la hauteur de ce qu'on imagine ou de ce qu'on attend. Mais pas du tout. Chacun est chez soi. Chacun peut-être même un peu enfermé. Peut-être, en tout cas, c'est pas le grand happening qu'on pourrait imaginer pour une chose pareille. Et il y a une signification. Il y a une raison que vous allez essayer de nous expliquer ce soir.
Tout à fait. Effectivement, on aurait pu imaginer un rassemblement très important dans une place centrale en Égypte où des milliers, des centaines de milliers de personnes se réunissent et où on déclare d'une façon officielle la naissance du peuple juif. Lorsque un très grand événement arrive, on le fait de cette façon. Et là, en fait, le grand événement, c'est Khatsot, le milieu de la nuit, la minuit de cette fameuse nuit du 15 Nissan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les rues sont désertes. Dans les maisons, les Juifs sont en famille. Ils mangent le sacrifice qu'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice pascal, qu'ils ont préparé la veille. Ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait la Mila juste avant. Et ils sont prêts à partir. Mais chacun chez soi... Et non seulement chacun chez soi, mais ils ont l'interdiction de sortir. De leur dire, celui qui sort, je ne réponds pas de sa vie, il risque de mourir. Vous devez chacun rester chez vous et mettre le sang sur les linteaux. Le sang sur les linteaux ne vont passer évidemment à la mezouza. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est que chacun reste chez soi, mais pourquoi? Pourquoi ne pas organiser ce grand rassemblement? On est certain de l'action divine, Dieu va tuer les premiers-nés cette nuit-là. Donc on en est convaincu, pourquoi ne pas avoir prévu un grand rassemblement et une grande fête? La réponse est la suivante. Vous savez que les consulats, enfin surtout les ambassades, elles ont un statut juridique bien particulier. Une ambassade, c'est un peu comme si on était, par exemple, l'ambassade des États-Unis, on le sait, près de l'Élysée. Place de la Concorde, elle est un édifice imposant en plein cœur de Paris. Et pourtant, lorsque vous franchissez la porte de l'ambassade, vous avez les mêmes règles et lois des États-Unis. Vous n'êtes pas en France, en fait. Vous êtes en France, mais en fait, vous êtes régi par la loi américaine. On ne peut pas rentrer dans une ambassade si on n'en a pas l'autorisation, même des policiers, des services d'ordre, c'est ce qu'on appelle un statut d'extraterritorialité. Ce statut bien particulier, accepté dans le monde entier, sur toutes les ambassades, eh bien nous allons utiliser cette image par rapport à la sortie d'Égypte. Dieu dit, je vais passer en Égypte. Ani velo malach. Ani velo achalir. C'est moi-même qui va, je vais me révéler, je vais passer dans les rues de l'Égypte, et celui qui est dans sa maison... le Ben Israël, les enfants d'Israël qui se trouvent chez eux avec le sang sur les linteaux n'ont rien à craindre. Ils ne sont absolument pas touchés. Alors ça, je vous explique, en fait, c'est comme une forme d'ambassade. Dieu nous demande, dans chaque maison juive, de créer une ambassade, mais de quel pays? Alors pas d'un pays, mais de la royauté divine. Dieu est le maître du monde. Malheureusement, peu de gens le reconnaissent comme ils devraient le reconnaître. Chaque maison juive doit être un lieu où la présence de Dieu est une évidence et où on parle de Dieu, des devoirs que nous avons vers lui. Et si on est capable de bien fermer la porte, c'est-à-dire de rester, on va dire, de se protéger des influences négatives du monde autour de nous, eh bien effectivement, on a créé une sorte d'ambassade de la royauté divine, chacun chez soi. Et lorsque Dieu dit « je me suis révélé dans l'Égypte », et que j'ai tué tous les premiers-nés en Égypte, effectivement, il a tué tous les premiers-nés. Alors vous allez dire égyptiens, oui, mais pas seulement égyptiens. Il n'y avait personne d'accessible. Il y avait des maisons juives bien fermées, Et dans ces maisons juives, Dieu ne pouvait pas rentrer, entre guillemets, parce que c'était un ambassade, et qu'en plus, une ambassade de son royaume. Et donc Dieu n'est rentré dans toute l'Égypte, puisque les maisons juives n'étaient plus en Égypte à ce moment-là, elles avaient un statut spécial. Et vous avez bien compris que si ce moment si important de la création du peuple juif se fait à travers des maisons dans lesquelles prennent place les membres de la famille, avec autour du Corban Pessah, du sacrifice pascal, eh bien on est bien dans un symbole très fort, et un message très fort pour les générations à venir. Ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, quelques millions de juifs, à résister à toutes les vicissitudes de l'histoire, c'est justement parce qu'on a créé des milieux familiaux, c'est-à-dire des familles, des cellules familiales, protégées par des maisons, c'est-à-dire par des murs, et surtout avec des parents, avec des frères et sœurs, avec une famille, qui continue à véhiculer les valeurs juives, en particulier le soir du Seder, où on se réunit en famille. On sait très bien que le soir du Seder, c'est un moment très important de l'année juive, et pourtant, Rosh Hashanah n'est pas moins, Simchat Torah n'est pas moins, Yom Kippour, et pourtant, Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, ça se fait pas à la maison, ça se fait à la synagogue. Alors c'est vrai qu'à Pessah, il y a aussi la séquence synagogue, mais on sait tous que le moment le plus solennel, le plus important, c'est le soir du Seder en famille. C'est très intéressant de voir qu'une fête se fait d'abord en famille avant d'être fêtée à la synagogue. Et en fait, c'est de rappeler que lorsque nous sommes devenus une nation juive, nous le sommes devenus parce qu'il y avait des maisons juives, des maisons qui transmettaient des valeurs. Et le soir du Seder, c'est le moment de transmettre les valeurs juives en rappelant la sortie d'Égypte, la révélation du Sinaï, les miracles de la sortie d'Égypte, donc l'implication de Dieu sur terre, comme une carte de visite que Dieu a brandie. Il a dit voilà, je suis là, j'existe. Et je vous demande à vous tous, vous les juifs, chacun dans sa famille, de continuer à transmettre, raconter les miracles de l'Égypte, parce que si vous savez bien fermer les portes et mettre le sang sur les lenteaux, aujourd'hui la mezouza, eh bien, vous allez être protégé des courants divers et variés d'assimilation surtout, et vous allez pouvoir transmettre à vos enfants, ce soir-là en particulier, mais pas seulement, les valeurs que je voudrais que vous transmettiez. Et à ce moment-là, vous devenez une ambassade de la royauté divine. C'est très important de se rappeler cette image, surtout dans une époque où on a peut-être un peu tendance à laisser trop les portes ouvertes, si je peux dire, ou les fenêtres ouvertes. Alors c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui, il ne s'agit pas des portes et des fenêtres que vous connaissez, mais il s'agit de laisser entrer dans nos maisons des valeurs, des façons de voir les choses qui ne sont pas obligatoirement les bonnes. Il faut savoir en tout cas les combattre et résister à ces influences négatives qui peuvent venir de l'extérieur. Protégeons nos enfants de choses qui risquent de les faire quitter notre tradition si belle. Mais pour les protéger, au lieu d'être dans la répression, il faut être dans l'encouragement et surtout leur transmettre quelque chose de fort, de puissant, qui fait vibrer. Et voilà, le soir du Seder, c'est un exemple de cette grand rendez-vous familial. Et beaucoup de gens vous diront, même des gens très loin de la religion, ils diront que ce qui les rattache encore un petit peu à la religion juive, c'est le rendez-vous du soir du Seder à Pessah. Et ils tiennent énormément à cette soirée-là, alors que d'une façon générale, ils ne sont pas très pratiquants. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Parashat Bo, c'est la paracha de la libération et de la naissance du peuple juif, mais elle se fait en famille, comme le soir du Seder, avec une famille rassemblée autour du sacrifice pascal, qui rappelle qu'Hachem y saute, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les maisons juives, parce que les maisons juives ne sont pas vraiment en Égypte. Elles sont en Égypte, mais elles ont un statut différent. C'est un peu ce que nous devons avoir, nous, chacun une maison bien fermée, hermétiquement fermée, devant des influences négatives et destructrices du monde extérieur, et en même temps une cellule familiale chaleureuse, où il y a beaucoup de convivialité et de confiance, et où véritablement les enfants se sentent bien, ils s'épanouissent dans un environnement en même temps pratiquant et en même temps souriant, ouvert vers le monde et en même temps vigilant devant les dangers que représente notre civilisation, les civilisations autour de nous. et en donnant dans cette famille justement ces traditions et en les expliquant, en les commentant, en leur donnant un sens, pas en faisant de la tradition simplement par tradition, mais en comprenant bien le sens, et bien en faisant cela, nous ouvrons une ambassade. Et notre ambassade, eh bien, c'est l'ambassade de la royauté divine, de la Malchut Shamaim, que nous ouvrons chaque jour en entrant chez nous et en embrassant la mezouza en entrant et en disant « Hachem est avec nous, Hachem est devant nos portes, Hachem est dans notre cœur, Hachem est dans notre tête et Hachem est surtout dans nos paroles que nous transmettons à nos enfants. »
Eh bien, Rav Guy, on va y penser dès ce soir. Parce que dans des moments tels que nous vivons aujourd'hui, où il y a aussi du doute, il y a aussi des incertitudes par rapport à ce que vivent les Juifs à travers le monde, pas seulement en Israël, beaucoup en Israël évidemment. Bah, ce cours que vous venez de nous donner et nos familles, je pense que c'est probablement l'une des meilleures, il n'y en a pas que celle-ci, mais il y a aussi celle-ci, l'une des meilleures. Réponse à apporter, vraiment consolider sa famille, parler aux enfants qui doivent, j'imagine, eux aussi avoir beaucoup d'angoisse qu'ils ne partagent pas toujours. Et on peut commencer dès ce soir avec un beau moment. On met la vue malquin, on peut dire tiens, on va manger quelque chose et être ensemble pour cette soirée du samedi soir. Rav Guy, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Shavua tov. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous dire à toutes et à tous Shavua Tov. Et vous retrouvez dans un instant du côté de chez Schwartz, une émission qui vous est présentée par Sandrine Schwartz.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari yid, shalom shokat shoyim.